Je regrette pas, mais j'aurais aimé quand même avoir commencé mon métier plus jeune. S'ils ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire, parce que ça, c'est un problème aussi, mais qu'ils y aillent tout de suite. Mais de ne pas perdre de temps bêtement, on ne se rend pas compte de la valeur du temps. Au fur et à mesure, on se dit, c'est marrant, il est de plus en plus court celui-là. Donc, ouais, moi, ça serait plus foncer dans ce qui vous plaît vraiment tout de suite. Et n'attendez pas en disant non, mais j'ai le temps, je ferai l'année prochaine. Non, non, ça c'est, je pense que c'est une bêtise.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui sait depuis l'âge de ses 10 ans ce qu'elle veut faire, devenir comédienne. Mais au moment de faire ses études, elle n'avait pas osé. Lilou va donc être diplômée d'un bac plus 6 en finance pour assumer son rêve. Aujourd'hui, Lilou est donc actrice de cinéma et écrit des scénarios de films. C'est un joli clin d'œil du destin. L'écriture est réapparue dans sa vie, sans qu'elle ne le voie venir. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Lilou Fogli.
Bonjour Lilou.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
J'ai choisi un scénario, parce que c'est l'objet que j'ai souvent avec moi, parce qu'en tant que comédienne, c'est avec ça qu'on apprend notre texte, et en tant qu'auteur, c'est ce que j'écris, c'est sous cette même forme.
Grande question que je me posais l'autre jour à une actrice, le scénario, tu l'apprends par cœur, mais tu connais toutes les scènes longtemps à l'avance, comment ça se passe? C'est une petite parenthèse.
Alors, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien les savoir avant, c'est-à-dire je travaille toutes mes séquences en amont. Et après, la veille, bien évidemment, je revois. Mais il y en a, mais je fais ça depuis pas super longtemps et ça me réussit mieux, en fait. Mais t'en as beaucoup qui apprennent, qui lisent et qui apprennent vraiment du jour au lendemain. Moi, j'aime pas parce que je trouve qu'on n'a pas bien le texte en bouche et que du coup, on réfléchit à ce qu'on a à dire. Donc, ça me plaît moins.
C'est moins fluide.
Ouais.
Avant d'être actrice, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
J'ai grandi à Marseille. jusqu'au bac. Ma famille est là, enfin mes parents sont encore là-bas. Et ensuite, j'ai fait des études à Paris, un peu en Espagne, beaucoup aux États-Unis, et je suis revenue vivre maintenant à Paris.
Alors, avant qu'on va décomposer ces grandes étapes, est-ce que tu peux nous raconter la petite fille que tu étais?
La petite fille que j'étais très timide, très bizarrement, très timide, très collée à ma sœur, avec qui j'ai 2 ans d'écart. Mon frère, en revanche, a 6 ans d'écart. Donc, bon, lui, c'était un peu notre souffre-douleur. Et on a enfance joyeuse, pleine d'amour, beaucoup de chance là-dessus. Et avec mes copains d'école avec certains je suis encore copine avec, donc non, un parcours assez linéaire, assez droit, tu vois, tout ce qui est de plus normal.
Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves de petite fille? Tu disais, quand je serai grande je ferai
en fait j'ai vu Casablanca le film, j'avais 10 ans et j'ai voulu être comédienne en voyant Ingrid Bergman, donc ça a été très tôt, je savais ce que je voulais faire. Malheureusement, je n'y ai pas eu accès, ou j'ai eu peur de monter. Et puis les parents qui n'étaient pas dans cette voie-là, qui n'étaient pas artistiques, en tout cas cette artistique-là. Donc j'ai fait d'autres études. Mais si vraiment je suis honnête, je savais que je voulais être comédienne depuis l'âge de 10 ans.
Et ça, on va en parler. Tes parents, d'ailleurs, ils font quoi comme travail? Est-ce qu'ils travaillent encore, ta maman en tout cas?
Ma mère avait un spa à Marseille qui s'appelle Château Berger. En revanche, on a créé ensemble avec toutes les trois, avec ma sœur. une crème de cosmétique qui s'appelle Château Berger Cosmétique. Et mon père est chirurgien plasticien.
D'accord. Donc, pas du tout, comme tu disais, dans l'univers artistique.
Non.
Loin de là. Et qu'est-ce qui a fait, tu disais que tu étais une petite fille très timide, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as basculé et tu es sortie de cette timidité?
Et je ne suis pas sûre qu'on en sorte. En fait, c'est juste parce que quand on est comédien, tout le monde croit qu'on est plus timide ou quoi que ce soit. Alors, moi, je compte par parler beaucoup. Donc, effectivement, de l'extérieur, tu ne vas pas te dire, tiens, elle est timide. Mais tu le sais en toi, comment tu appréhendes les choses. Je sais que petite, je me souviens, j'étais terrorisée quand mes parents me disaient « Est-ce que tu peux demander l'addition pour nous au restaurant ?» C'était pas possible. Pareil, d'entrer dans une pharmacie, de demander quelque chose à quelqu'un, c'était pas possible. Lever le doigt en classe pour qu'on m'écoute parler, je n'y arrivais pas. Et je pense que le fait d'être comédienne, ça m'a beaucoup aidée, mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours une certaine timidité qui n'est peut-être pas palpable pour les autres, mais en tout cas, pour moi, elle est là.
C'est amusant parce que toutes les personnes publiques que j'ai interviewées, je pense par exemple à Heidi Sevest, qui est glaciologue et qui fait maintenant des émissions de télé sur la nature. Le glaciologue, c'est le docteur des glaciers. C'est pas évident. Et je pense à plusieurs personnes qui sont aujourd'hui des personnalités publiques et qui disent toutes qu'elles étaient timides, en fait, enfant.
Mais... t'en as quand même beaucoup des enfants timides. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai un fils, mais lui, en revanche, il n'est pas passé par cette case. Lui, il est complètement parle à tout le monde, aux arbres, à tout le monde. Mais quand tu regardes dans une cour de récré, t'en as quand même beaucoup. C'est un peu, c'est assez récurrent. Donc bon.
Ouais. Voilà. Et donc du coup, tu disais au moment donc de choisir tes études que toi, au fond de toi, tu avais envie d'être actrice, mais que c'était pas le chemin dans ton carcan familial ou social.
Non. Après, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé expérimenter, faire des choses. Ça, j'ai pas été brimée du tout. C'était plus, je pense, une peur pour eux de voir leur fille se lancer dans quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et donc, ouais, donc j'ai dit que je voulais faire ça, mais ils avaient tellement peur et moi, j'étais tellement pas assumée, j'ai eu mon bac jeune, qu'ils m'ont suggéré, comme j'étais bonne en maths, de faire une école de commerce. Et du haut de mes 16 ans, j'ai dit, ben d'accord.
T'as eu ton bac à 16 ans?
Oui.
D'accord. T'avais sauté quoi comme classe?
Je suis rentrée plutôt à l'école.
D'accord.
Ouais. Et ensuite, j'ai fait des études de finance pendant 6 ans.
Tu les as fait où tes études?
J'ai fait Paris 4 ans et ensuite j'ai travaillé 2 ans chez LVMH et après j'ai fait un MBA à Tulane à la Nouvelle-Orléans.
Et pourquoi, du coup, avoir fait ce MBA?
Parce qu'en fait, j'avais auditionné pour une pièce de théâtre en même temps que je n'avais pas dit à mes parents. Parce que pour entrer dans un MBA, tu as un concours à passer. Enfin, un concours. Oui, c'est une sorte de concours avec des notes qui s'appelle le GMAT. Et ce concours-là, plus les notes que tu as eues auparavant et un oral, te permettent d'accéder à telle ou telle université. Donc, il a fallu que j'aille... Bon, j'habitais déjà aux États-Unis, mais il a fallu que j'aille dans les diverses universités dans lesquelles j'avais postulé. Et en même temps, je regardais et j'auditionnais pour des pièces de théâtre. Et quand la Nouvelle-Orléans m'a prise pour le théâtre, je suis allée à la Nouvelle-Orléans. En gros, je me suis dit que c'était la bonne idée d'aller faire un billet parce que j'étais plus libre et que je pouvais, à côté, faire ce que je voulais vraiment faire. Et puis, ça m'a permis de parler parfaitement anglais. Donc, bref, c'était que du bonus. Et puis, je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon MBA. J'ai rencontré des gens top. J'ai quand même fait ma pièce. Donc, voilà.
Mais du coup, à partir de quand tu as commencé à faire du théâtre?
J'ai commencé là. Donc, je devais avoir 20, 16 et 4, 20, ouais, 21 ans. 22 ans.
D'accord.
Un peu tard, 22 ans, et j'ai commencé à bosser vraiment dans ce métier, parce qu'après, j'ai fait d'autres études, à 28.
Tu as fait quoi d'autre comme études?
Après mon MBA, j'ai fait un MFA, c'est un Master in Fine Arts, à l'Actor Studio à New York.
D'accord. Et donc, Donc là, c'est là où tu as fait, entre guillemets, ton coming out de dire « j'ai vraiment envie de faire de
mon métier ». J'avais des diplômes, donc là, ils ne pouvaient plus rien me dire. Et puis, ouais. Je m'assumais enfin. Donc, j'ai dit « bah voilà, c'est, maintenant, je vais être comédienne ». Et ils m'ont dit « bah, va ». Mais pour la petite histoire, ils me faisaient rigoler parce qu'ils m'envoyaient des coupures de journaux sur la finance, sur la bourse et tout ça, avec des petits post-it en me disant « est-ce que tu es bien sûr ?» Oui, j'étais bien sûr et je regrette toujours pas d'avoir changé totalement de voie.
Ouais. Et au final, donc t'as exercé, tu disais, chez LVMH pendant un an, mais finalement, t'as jamais vraiment travaillé en finance ?
Non, en finance, vraiment pas. LVMH était entre les deux, c'était entre la maîtrise et le MBA. Et là, j'ai travaillé un an chez Dior et un an chez Moët & Chandon NSI. Mais j'étais en marketing chez l'un et presse internationale chez l'autre.
D'accord, donc rien à voir avec la finance.
Non, je voulais essayer d'autres choses, comme je savais que je repartais pour un tunnel de MBA. Et en revanche, quand j'ai terminé mon MBA, j'ai eu une proposition d'embauche à Londres. J'y suis allée et j'ai vu à quoi allait ressembler ma vie et j'ai démissionné avant d'avoir commencé, en fait. Et je suis repartie faire 3 ans d'études.
Et voilà. quand du coup t'as dit ok j'assume j'ai vraiment envie d'être actrice, comment ton entourage ils ont réagi du coup, en dehors du fait de t'envoyer les post-it, est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de te dissuader
Non, plus à ce stade-là, non, je pense qu'ils étaient rassurés que j'ai un bagage, pas que aujourd'hui ça change, je sais pas si ça aide quoi que ce soit, je pense aux jeunes là où tout est compliqué, mais non, ils étaient enfin, voilà, ils avaient plus envie de me soutenir en me disant, bah, écoute, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, on va pas te... Vas-y, t'as rempli ta part du marché, en gros, et maintenant, fonce, et maintenant qu'ils me voient travailler et que je gagne ma vie, parce que c'est quand même ça le plus dur à la base dans ce métier, ils sont très heureux et très rassurés.
Enfin, part...
maintenant, ça va.
Ouais, maintenant.
maintenant.
Ouais. Et à partir de quand, du coup, tu as commencé à gagner ta vie et toi, d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet qui t'inquiétait ou est-ce que tu te disais, bah, de toute façon, j'arriverai toujours à me débrouiller ou c'était un sujet qui te... C'était quoi tes peurs ?
Ah non, alors vraiment, je crois que je n'y ai jamais pensé. Je crois que d'ailleurs, on m'a jamais posé cette question, mais je n'ai jamais pensé au fait de ne pas pouvoir gagner ma vie. Ça me paraissait évident que de toute façon, j'aurais de quoi payer mes factures. Et puis, je faisais toujours des petits boulots, tu vois.
Quand
j'ai fait mes études à New York, bah, évidemment, j'étais serveuse. C'est le fameux métier slash, comme on dit, comédienne slash serveuse. Et à Paris, je donnais des cours de maths pendant très longtemps à des enfants que j'ai suivis quasi jusqu'à la terminale, d'ailleurs. Donc, j'étais pas du tout inquiète par l'argent. Mais alors, pas du tout. Après, bon, tu as des petites sueurs froides quand même quand ça arrive où tu dis « Ah, là, ça va être difficile de finir l'année », mais tu trouves des solutions. Moi, je suis persuadée que quand tu as envie et quand tu bosses, tu trouves. Tu vois, alors, pas forcément dans ce que tu voulais au départ, mais tu ne vas pas te laisser crever la dalle. Il y a quand même 1000 possibilités de se démerder.
Voilà. Ouais. Quand tu veux, tu arrives toujours à joindre les bouts.
Je trouve. Je te parle d'une jeune femme à l'époque célibataire sans enfant.
Oui, petit détail, pas gros, qui n'en est pas. Et à partir de quand tu as senti que ta carrière a commencé à décoller, si on peut dire ?
Je ne sais pas si on pense une seule fois que la carrière décolle. Je crois que pour nous, c'est plus quand c'est un peu plus régulier, le boulot. Moi, j'ai pas une ascension de comédienne où on se jette sur moi dans la rue, ou tu vois, où on monte des films sur moi, pas du tout. J'ai une carrière de quelqu'un qui travaille régulièrement. Je suis identifiée dans le métier. J'ai la chance de faire des choses qui me plaisent. Voilà. Après, comme maintenant j'ai la double casquette avec l'écriture, j'ai beaucoup moins d'angoisse pas d'argent, mais d'angoisse de ne pas travailler, d'angoisse de ne plus être aimé, parce que c'est quand même un métier, si on ne t'aime pas, on ne t'appelle pas. Voilà, l'écriture, moi, m'a fait beaucoup de bien, m'a beaucoup apaisé, me rend très heureuse.
Comment tu gères ça, du coup, le fait de se dire, en effet, j'ai besoin qu'on m'aime pour pouvoir faire mon métier?
Bah, en fait, je crois que tout le monde a envie d'être aimé. Donc, ceux qui ne le disent pas, c'est qu'ils ne sont pas posés la question ou qu'ils se voilent la face. Mais je ne connais pas une personne qui n'a pas envie d'avoir des amis et qui n'a pas envie d'être appréciée. Ça, je ne crois pas que ça existe.
Après, je pense que tout le monde a envie d'être aimé, c'est sûr. Après, la reconnaissance... Enfin, moi, je vois, tu vois, typiquement, suite à mon burn-out, je me suis rendu compte qu'avant, j'avais un besoin de reconnaissance qui était extrême. Et maintenant, je sais que j'essaie de m'apporter plus d'amour moi-même pour en attendre moins des autres, mais même si, évidemment, j'ai besoin d'avoir des gens qui m'aiment, mais si, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, il y a des moments dans la vie, même tu vois, on en parlait avec, par exemple, Arnaud Giraudon qui a monté Fortuneo. Et Arnaud, il disait qu'avant, quand il était chef d'entreprise, parce que maintenant, il est consultant, il avait un besoin de reconnaissance immense qui s'apporte maintenant à lui-même, en fait. Et du coup, il est beaucoup plus apaisé avec ça.
Mais je pense que c'est pareil dans tous les métiers, même acteur ou pas. Il y a là, c'est deux choses différentes. C'est soit tu fais ce métier pour les mauvaises raisons, à savoir un peu ce qui arrive aux jeunes là, parce que on a tellement de télé-réalité et on croit que tout est bizarrement facile ou accessible, et que je crois que leur métier c'est vouloir être connu, ce qui n'est pas un métier. Donc ça, c'est plus dans, je pense, dans ce dont tu parles, de cette reconnaissance, cette soif de
notoriété.
De notoriété. Après, moi, quand je te dis d'être aimée, c'est plus d'être prise sur un casting. C'est pas, j'ai jamais eu une envie de me retrouver, je sais pas moi, dans les ragots, dans les magazines. Enfin, ça ne m'a jamais intéressée. Et plus ça va, et moins ça m'intéresse. C'est vraiment vivant heureux, vivant caché, ça me va très bien. Je pense que en fait tu arrives à manager dans ton métier et à avoir si t'as pas envie de t'exposer, tu peux ne pas t'exposer. Tu vois, alors oui, t'es obligé de prendre le métro pour certains, un truc comme ça, mais tu n'es pas obligé de t'exposer. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, je n'aime pas ça, voilà. Mais ça n'empêche pas que j'aime être aimé au sens aimable. Enfin.
Oui, 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 apprécié pour qui tu es en tant que personne.
Ouais, voilà, ça me fait du bien, et puis, enfin, ça rend les gens heureux, non?
Bah oui, clairement. Et à partir de... Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, dans des rôles, waouh, c'est un truc que jamais j'aurais imaginé avoir ce type de rôle?
Non, je ne l'ai pas eu encore. Non. Donc, non. Enfin, je suis très heureuse de plein de rôles que j'ai fait, mais je n'ai jamais eu encore un... C'est le rôle de ma vie. Non. Et après, je ne sais pas si je saurais le reconnaître. Tu le sauras peut-être, tu sais, avec le temps aussi. Le recul.
Et tu disais que t'étais mise à l'écriture. Qu'est-ce qui t'a amené à te mettre à l'écriture?
Je suis tombée enceinte et j'étais alitée. Et j'avais une idée en tête, enfin, qui me trottait depuis longtemps, et j'ai commencé à la mettre sur papier. C'est parti de là. Et puis, mon mari a lu et on s'est dit, il avait envie de réaliser pour la première fois. Moi, j'ai écrit pour la première fois, donc ça a été un autre bébé. Et on a eu de la chance que ça fonctionne. Du coup, depuis, j'écris. Et vraiment, c'est un peu du hasard. Et je suis... c'est-à-dire, je ne pourrais pas m'en passer. C'est pas possible.
Du coup, t'écris tous les jours?
Ouais, oui, quasi. En fait, il n'y a pas de... Tu vois, j'ai pas d'horaire ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs ce qui est difficile aussi, de te faire violence en te disant, bah là, il faut y aller. Mais je crois qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'installe où tu as un besoin, donc tu t'y colles. Il y a des jours, tu peux passer 3, 5, 6 heures devant ton ordinateur et il y a une phrase qui va sortir et c'est terrible, et que tu jetteras le lendemain. Et un autre jour, tu vas écrire, je sais pas, 8 pages dans la foulée et elles sont toutes bien. C'est, voilà, tu sais pas, donc il faut du temps, il faut aussi du temps sans rien faire en tout cas pour ne pas bosser sur le projet en cours, pour avoir le recul de le lire. Et réavoir la fraîcheur de la découverte et de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que je suis objective, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il... voilà. Et c'est une remise en question systématique. Et ce que j'adore aussi, c'est que là, bizarrement, j'aime bien être seule aussi devant mon ordinateur.
Ça, c'est un vrai, c'est un même parallèle avec la timidité, tu vois. Penelope Boeuf, qui est une podcasteuse très, très connue dans l'univers du podcast. Et elle, c'est une personne qui est hyper extravertie. Aujourd'hui, que tu la vois, elle est hyper extravertie. Petite, elle était timide comme pas deux. Et clairement, elle dit aujourd'hui, elle est heureuse de passer ses journées toute seule devant son ordinateur et avec son micro. Et c'est amusant de voir en fait que le nombre de personnes qui sont potentiellement, des personnalités qui aiment monter sur scène et compagnie, et le bien-être que tu as quand tu es seule face à ta feuille ou à ton écran pour écrire.
Exactement. C'est une sorte d'équilibre. En tout cas, moi, c'est le mien et ça me plaît beaucoup, ça me va. Ouais.
Et quand tu écris, du coup, c'est des films ou c'est des pièces de théâtre ?
Non, moi, j'ai écrit essentiellement pour le cinéma. Ouais. Et là, j'ai écrit avec deux acolytes un projet de série. Donc après, tout est très long, qui est en ce moment lu sur les plateformes. Donc, on en saura un peu plus bientôt. Mais sinon, là, essentiellement, c'est long métrage.
D'accord. Et quand tu étais actrice, tes premiers rôles avant que tu tombes enceinte, tu t'étais dit, un jour, j'aimerais écrire, ou c'est, comme tu disais, c'est vraiment arrivé, ça ne t'avait jamais titillé?
Mais pas du tout. Non, j'ai jamais pensé. Mais si je suis très honnête, j'ai retrouvé, après m'y être mise, j'ai retrouvé dans mon ordinateur des vieux dossiers où j'avais écrit des choses, des vieux carnets où j'avais vraiment écrit des choses. Donc, je pense que ça vient de beaucoup plus loin, mais je ne m'en suis pas rendu compte. En tout cas, je n'ai jamais émis le fait de vouloir faire ça. C'est un peu arrivé, c'est la façon dont c'est arrivé qui était un peu par hasard.
Ouais.
Mais j'ai bien fait parce que j'aurais raté un truc vraiment qui m'épanouit pleinement, quoi.
Et comment ça se passe de travailler avec son mari ?
Ça se passe, c'est super. Quand c'est intelligent des deux côtés, déjà, parce que de se supporter. Mais déjà, on s'entend très bien. Mais on travaille pas complètement ensemble. C'est-à-dire, quand lui est réalisateur, moi je suis auteur, ce qui n'empêche pas qu'on puisse écrire ensemble à des moments. Mais moi, mon travail, il est avant. Et une fois que lui s'empare du scénario et qu'il fait son film. Moi, je dis plus rien. Donc, on n'intervient pas. On marche pas sur les plates-bandes de l'autre du tout. C'est vraiment chacun à sa place.
D'accord.
Après, quand on écrit ensemble, ce qui vient de nous arriver là, vraiment, où on a écrit à deux, et ben, c'est là qu'on s'est dit, je sais pas si on est sacrément amoureux ou que ça se passe aussi super bien au boulot, mais ça marche, quoi. Où tu dis, c'est hyper agréable, c'est fluide. On s'entend, ça va vite. On va réitérer.
Génial. Et ton mari, du coup, c'est un acteur réalisateur. Comment ta famille a vécu le fait que ton chéri soit aussi de cet univers-là?
Ils ne savaient pas qui c'était. Ils n'ont pas mis la tête et le nom en même temps. Parce qu'ils n'étaient pas, ils sont vraiment pas dans ce milieu. Donc ça c'était le premier truc, et la deuxième chose, ils étaient pas totalement rassurés, pour être très honnête. Et puis ils l'ont rencontré et ils sont devenus potes. Mais quand je dis potes, indépendamment de moi, ils sont devenus potes. Donc tout va bien. C'est mon frère qui était lui hystérique parce que c'était son acteur préféré. J'ai cru qu'il allait pas s'en remettre, mais sinon. Non, il a été très bien accueilli et intégré, mais après l'avoir rencontré.
Ouais.
Il a fallu que tout le monde le rencontre. Après, voilà.
Pour être assuré. Moi, je sais que je l'ai connu dans Braco. Et bon, clairement, dans Braco, il avait quand même un côté dark.
Dans Braco.
Pas Braco ? Non ?
Non.
J'ai bugué alors.
Claude. Non.
Non ? Je suis complètement bugué.
Il n'y a pas beaucoup à la télé.
Ouais, alors je sais plus où est-ce que je l'avais vu, mais il y avait à côté d'Arc. Je vois, c'était après. Ouais, je suis pas hyper cinéphile.
Il a fait des. En fait, c'est rigolo parce qu'il a fait des films qui sont outre comédie, et les gens qui voient certains films ne voient que certains films. Donc, oui. Ceux qui ont vu que les comédies, ceux qui ont vu les films plus dark, ceux qui ont vu les films d'auteur, mais c'est pas les mêmes gens.
D'accord.
Donc voilà. Et comme il est allé un peu sur tous ces registres, bref, il y en a pour tout le monde.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, du coup, tu écris, tu es actrice et tu es également aussi marraine d'une association sur l'autisme. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir marraine sur ce sujet-là? Parce que j'imagine que tu dois être sollicitée sur pas mal de choses.
Oui, et ben en fait, c'est l'approche de la de celle qui a créé cette association qui s'appelle Pascal Comte, qui est venue me voir, qui m'a envoyé un texto sur Instagram, un message comme quoi ça peut avoir du bon Instagram, et j'ai trouvé la nana super. Elle a un enfant qui est autiste, autiste léger, ce qu'on appelle léger. Mais et on s'est rencontrés en vrai parce que bon, Instagram ça va deux secondes, mais et j'ai adoré son énergie, et j'ai adoré son approche. En fait, elle a créé cette association qui mélange les autistes et non autistes. C'est-à-dire, c'est pour les enfants jusqu'à 12 ans, et c'est vraiment pour les intégrer et pour que les enfants non autistes puissent aussi appréhender cet handicap et savoir comment réagir et que en fait tout va bien. C'est juste, c'est différent, mais c'est ça peut ne pas être un problème si on éduque entre guillemets les gens. Donc mon fils de 8 ans fait partie de cette association en non autiste et ça fait 3 ans et le fait qu'il y soit, déjà il les repère et c'est surtout qu'il est il est hyper hyper doux, il arrive à communiquer vraiment avec eux. Alors, de temps en temps il est un peu perdu quand ils font une crise ou mais c'est cette association fonctionne en tout cas, je trouve qu'elle est extrêmement bénéfique pour d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, donc quand elle m'a demandé d'être marraine, j'ai été ravie. Et c'est une des rares associations qui te demande d'être marraine et tu es avec les enfants. Parce que souvent, c'est un peu des prête-noms, tu vois. On te demande, on peut mettre ton nom là, on peut mettre ton nom là. Mais moi, ça ne m'intéresse pas si je ne vois pas les enfants. Et là, voilà, là, c'est vraiment essentiellement avec les enfants. Et on fait des activités dans Paris. On essaie une, deux fois par mois. Ou apprendre à des événements tout au long de l'année autres comme des journées portes ouvertes où on fait des jeux toute la journée, ça s'appelle Happy Blue Day. Et sinon, on les amène au théâtre, on les amène à voir comment on fait du miel sur un toit de Paris, on les emmène au musée, enfin on fait mille choses.
Génial. Et là du coup, tu disais que tu es retournée vivre à Paris bon depuis longtemps maintenant, Marseille ouais. Ne te manque pas?
Ah si, non mais Marseille, j'adore Marseille. C'est mon cœur. Donc,
les gens ne le voient pas à l'écran, mais dans leurs oreilles, mais tu as ton regard qui s'illumine.
Non mais c'est Marseille, c'est une des plus belles villes qui existent. C'est la plus belle mixité aussi. Cette Méditerranée, c'est calante. Moi, j'y vais régulièrement et j'adore y retourner. C'est ma bouffée d'air. Je pourrais pas m'en passer. Marseillaise un jour, Marseillaise toujours. Hein, c'est... Non, j'adore la ville.
Et d'ailleurs, du coup, donc à Marseille, tu as créé une marque avec ta sœur et ta maman. Comment ça s'est passé, d'où l'idée est née de monter cette entreprise à trois?
Ma mère avait un centre de thalasso à Marseille qui s'appelait donc Château Berger. Donc, elle était déjà dedans. Ma sœur et moi, avec nos études, on était pas mal placés quand même pour pouvoir monter quelque chose. On avait envie de faire des soins qui pouvait correspondre à toutes les peaux, parce qu'on en avait marre de partir en week-end et jamais avoir la bonne crème, la tienne ne va pas à moi, elle ne va pas à toi, voilà. Donc, c'est dit, cherchons un peu d'efficacité et de simplicité. On est parti sur ça, on a créé des formules avec beaucoup de rigueur, avec notre père aussi sur certaines formules, sur les protocoles un peu plus forts, un peu plus lourds. Et Château Berger Cosmétique a vu le jour il y a quelques années et ça se passe bien.
Et travailler en famille, donc du coup travailler avec son mari, travailler avec en famille, ça se passe comment?
Travailler en famille, c'est pas toujours simple, mais du fait qu'on soit trois, il y a toujours quelqu'un qui arrive à remettre les pendules à l'heure, donc ça va. Mais c'est un effort quotidien d'amour et de concession.
Du coup, c'est quoi ton impact? C'est quoi tes responsabilités et comment tu t'intègres ça dans ta vie de maman, d'actrice et d'écrivain de scénario?
C'est pas simple. C'est vraiment. Mais tout le monde me dit à chaque fois, comment tu arrives à faire tout ça? Je pense sincèrement, quand on s'organise bien, on y arrive. Je dis pas qu'on dort beaucoup, mais on y arrive. Je m'organise. Moi, je m'occupe essentiellement des nouveaux marchés. C'est-à-dire là, on vient d'ouvrir un spa à Dubaï, on va en ouvrir un deuxième. Moi, je cherche les ouvertures et comment grandir. Ma mère, c'est elle là qui vraiment crée les produits. Nous, on lui donne des idées sur un ingrédient qui nous plaît, qui a plein de qui apporte plein de vertus, mais c'est elle vraiment qui crée, qui fait les protocoles, mais en revanche, tout doit être validé par nous trois tout le temps. Voilà, comme ça on est bien exigeante, parce que trois, je vous assure, c'est pas simple.
Ah oui, deux, c'est clair. Ouais.
Et trois, pour qu'on soit trois d'accord, faut vraiment que ce soit bien. Et les produits sont top, parce que c'est vraiment des produits naturels. À base d'acide hyaluronique, c'est vraiment les bienfaits de la terre et de la mer. Enfin, voilà, ça nous correspond. Le packaging est écologique. On essaie de préserver au mieux la planète. C'est en adéquation avec ce qu'on est, je pense.
Ouais, super. Comment tu célèbres tes réussites ?
Je vois mes copines. Je bois des coups avec mes copines. Je bois des coups avec mes copines, je bois des coups avec mon mec, voilà. Tout simplement. Je ne fais rien d'extravagant.
C'est déjà génial que tu fasses quelque chose, parce que c'est une question que j'ai rajoutée là récemment, et il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait, je ne célèbre pas, je passe direct à l'étape d'après. Donc, c'est super que tu prennes ce temps-là.
Ah non, ah ouais, non, moi j'adore célébrer des choses. C'est comme les anniversaires, je trouve que c'est une fête. C'est une année de plus en vie, une année de plus qui s'est écoulée, donc ça veut dire qu'il y en a encore une carrière. Enfin, moi, j'adore célébrer. Hein. Ouais, si on peut faire. C'est pas faire la teuf, hein, c'est vraiment célébrer, faire un bon dîner, se voir, savoir la chance qu'on a, enfin, que l'on a. Ah ouais, non, non. Oui, moi, je célèbre.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Bah, tout le temps, en fait, quand tu es découragé, je crois que c'est une question que tu te poses. Pourquoi pas moi ? Pourquoi ? Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais je pense que sincèrement, tout est possible en étant, je vais dire, raisonnable aussi. Hein. Je ne vais pas être astronaute demain, mais tout est possible. Si on vraiment on y met du sien et qu'on se donne les moyens, on peut accéder à des buts qu'on s'est fixés. Donc, je me dis, pourquoi pas moi, à chaque fois qu'il y a peut-être un challenge un peu dur où tu as envie de te décourager et tu te dis, bah non, il n'y a pas de raison, et hop, ça repart.
C'est quoi, du coup, tes petits, ton petit tips, entre guillemets, pour quand, en effet, voilà, quand tu es dans le creux et que... Qu'est-ce qui te rebooste ? Tu te dis, pourquoi pas moi, mais est-ce que tu as des, je sais pas, des rituels pour te rebooster, de te dire, allez, on y va ?
Non, j'en ai pas vraiment, et je reste pas très longtemps dans cette humeur là, parce que ça me correspond pas du tout, et ça me mine encore plus. Déjà, s'il y a quelque chose de difficile d'accès, et en plus la joie de vivre, l'humeur qui s'en va là, moi je, après c'est la déprime, donc j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans, donc je me remets sur rail assez vite. Hein. J'ai pas de truc, mais je peux me forcer, par exemple, à aller faire une séance de pilates. Voilà. Je peux me dire, allez, bouge tes fesses, on y va. Et puis, le fait de sortir, en fait, sortir, voilà. Si je dois te dire un truc, c'est ça. Juste mettre le nez dehors.
Ouais, s'aérer.
S'aérer. Ouais.
C'est quoi pour toi la réussite ?
Alors, on a une très longue discussion avec quelqu'un sur ce mot-là. Je pense que la réussite est propre à chacun. Moi, ma réussite, c'est j'ai eu la chance d'épouser la personne, enfin l'homme de ma vie. J'ai la chance d'avoir un enfant en bonne santé qui est très chouette. J'ai la chance de faire un métier que j'aime. Voilà, ma réussite, elle est là. Mais je ne crois pas que ça se quantifie en rien, en fait. Ta réussite, je pense que c'est propre à chacun, c'est très personnel.
On est d'accord. Qu'est-ce que tu penses que la petite Lilou de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Alors, tu vas rigoler, mais je fais partie de ces gens qui n'ont pas beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire, j'ai une tendance à oublier. C'est atroce. Je me dis, heureusement que maintenant, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos avec nos téléphones et des vidéos. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ça doit partir dans un coin. Donc, 6 ans, je n'ai pas 20 000 trucs. Je ne me rappelle pas hyper bien. On va dire un peu plus âgé. en me disant « Hey, t'as vraiment fait ce que tu voulais faire, bravo !» Voilà, je crois que je me dirais ça. Et ouais, ouais non, je crois que je me dirais ça, en fait.
Quand on fait des choix dans la vie, il y a des renoncements. Ça a été quoi, du coup, tes renoncements en devenant actrice ?
Mes renoncements, ben, tu renonces à avoir une stabilité, autant financière que dans un emploi du temps. Donc, c'est dur pour le moral en général, parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Alors, au début, on te dit, attends, c'est fun, tu peux aller te faire dessiner. Non, non, c'est pas fun, ça, c'est pas seul. Donc, c'est un vrai renoncement à un style de vie qu'on connaît plus tous, enfin qui est plus normal. Renoncement, je pense que c'est peut-être le principal, ça doit être celui-là. Je pense pas avoir fait des renoncements drastiques. Oui, j'ai peut-être refusé du boulot parce que c'était à l'étranger un peu trop longtemps et que je me voyais pas si loin de mon fils si longtemps. Donc ça, c'est un renoncement. Voilà. Il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais là, tout de suite, c'est les deux qui me viennent.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta carrière à date d'artiste ?
Les plus grandes difficultés ?
Ouais.
Bah, c'est un métier qui est compliqué parce que quand tu bosses et que tu le fais, il est fabuleux. Mais sauf que tu passes plus de temps à ne pas le faire qu'à le faire. Donc déjà, l'attente entre chaque décision, je ne te parle même pas entre chaque rendez-vous, entre quand tu auditionnes et que tu attends le retour pour te dire, pour te confirmer ou pas que c'est bien toi, ça, c'est très long. Quand tu n'es pas prise 6 ou 7 fois d'affilée, c'est très compliqué à gérer pour le moral, pour tout. Tu as aussi des cas de figure où on te dit « c'est toi ». Et pour X raisons, 2 jours avant le tournage, tu apprends par quelqu'un d'autre que tu ne fais plus le film, alors que tu as déjà fait tes essais et tout ça. Ça arrive. Ça arrive. 2 jours avant, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois. Quand tu parles autour chez les copines, ça leur est arrivé aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça où tu tombes de ta chaise assez régulièrement. Donc, c'est pas un métier tranquille. Non, non.
Et comment tu gères ça, du coup, quand ça t'arrive, ce genre de truc ?
Et il faut que je sorte de chez moi. Dehors. Bah, tu peux... au début, j'avais des petites larmes qui coulaient, on ne va pas se mentir. Hein, j'avais des petits passages à vide. Maintenant, avec le temps, tant pis pour vous. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire.
C'est quoi tes plus grandes peurs ?
Grande peur. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps dans ma vie pour tout faire, enfin tout ce que j'ai dans ma tête. Ça peut m'angoisser. Mais après, j'ai des peurs de cartésienne. J'ai peur quand j'ai mon fils en vélo, je ne sais pas si vous avez vu les pistes cyclables à Paris, c'est devenu quelque chose, c'est un périph. Donc voilà, j'ai plus de peurs comme ça, mais j'ai pas d'angoisse énorme qui me plombe la tête, non, j'ai pas. Juste cette angoisse de me dire, laissez-moi 7 ans pour aller visiter certains pays que j'ai pas encore fait, pour expérimenter. Des activités que j'ai pas eu l'occasion de faire, enfin voilà, c'est plus
c'est quoi les choses que tu as vraiment envie là où qui te titille, que tu as vraiment envie de faire?
J'ai envie de faire du saut en parachute. J'ai envie d'aller à Cuba avant que ce soit vraiment vraiment trop 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 touristique. J'ai envie d'aller en Birmanie, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande. J'ai envie de finir d'apprendre à finir. Enfin, j'en suis à peine au départ, mais d'apprendre l'italien. Et si j'arrive assez bien le maîtriser, parce que je parle espagnol aussi, j'aimerais vraiment aussi faire le portugais, mais il faut du temps. Tu vois, il y a 1000 trucs. J'aimerais pouvoir apprendre à cuisiner israélien.
D'ailleurs, petite parenthèse sur la cuisine. Je ne sais pas si tu connais le chef Otolenghi. qui est un chef israélien. Ouais.
Bien sûr.
Petite parenthèse.
Et dans son livre, j'attends que comme il y a Noël qui va arriver, je me dis, j'attends que quelqu'un me l'offre parce que
il en a deux. Il y en a le dernier plus. Alors, il est dans notre bibliothèque, mais on n'a pas encore testé. Apparemment, il est beaucoup plus facile d'accès en termes de.
Jérusalem en gros milieu.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et non, mais ça, c'est dingue, tu vois. Mais il faut du temps.
Et d'ailleurs, encore parenthèse, il a sorti une collection de plats et de vaisselle aussi avec Cérax, que je te recommande très vivement. Ça a été mon cadeau d'anniversaire. Mes parents, ils m'ont offert ça, mais en mode, ils ne savaient pas du tout qu'on était fans d'Ottolenghi. Ils ont juste vu ça dans une boutique. Je dis, mais je suis trop contente.
Ah, c'est canon. Bah, je vais regarder.
Petite parenthèse.
C'est tellement bon.
Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Mon fils, non mais c'est bête, j'ai l'impression d'avoir toujours des réponses cucu avec ce genre de truc, mais non, c'est vrai, c'est mon fils. Je crois que c'est le truc dont je suis le plus fier, clairement. Il est inégalé, en fait, c'est ça.
Comment vous gérez d'ailleurs avec votre fils sur le fait que vous ayez une notoriété, comment ça se passe pour lui?
Ben, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il va bien. Je sais pas comment il le vit vraiment parce qu'en fait je connais pas ça donc je et mon mari non plus ne connaît pas ça d'avoir deux parents je sais pas je sais qu'il a il pose un milliard de questions sur ce qu'on fait mais pour la petite histoire au départ quand on lui demandait ce que faisait son père il disait bah mon père il fait des films qu'est-ce qu'elle fait ma mère elle s'occupe de moi. Voilà.
Ça fait plaisir.
Attends, c'est chérie, je bosse. Mais il a mis vraiment du temps à intégrer que je n'étais pas que sa maman. Et voilà, non, il nous pose beaucoup de questions. Il est très intrigué par ce métier. Il le connaît assez bien pour un petit garçon de 8 ans. Vis-à-vis de ses copains,
Vous n'avez jamais eu de...
Non, je crois qu'il s'en fout. Enfin, voilà, c'est papa et maman de travail. Il n'y a pas plus de... Ah si, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que moi, les gens ne me reconnaissent absolument pas dans la rue, j'ai pas du tout, et c'est tant mieux, mais c'est pas le cas de mon mari, et du coup, ça fait beaucoup rire de notre fils qui fait « je crois que les gens aiment beaucoup plus papa que toi ». Donc ça, c'est le petit truc, et voilà, il aime bien régulièrement la sortir.
Et toi, tu le vis comment quand tu dis ça?
On me fait rire. Ouais. Et ouais, t'as raison, ils ont bon goût, hein, ils préfèrent papa.
Mais tu vois, c'est marrant parce que, enfin, tant mieux, hein, s'il il en souffre pas. J'en parlais avec Philippe Manœuvre qui disait que pour lui, c'était un vrai sujet de faire en sorte que ses enfants prennent pas la grosse tête vis-à-vis de leurs copains, tu vois, à l'école. Sachant que l'aîné de ses enfants, enfin, il a une fille qui a, je sais pas, 30 ans et quelques, et il a deux petits derniers, dont un qui a 10 ans. Et on en parle aussi avec Adeline Blondio, qui disait que quand elle était dans Sous le soleil, les maîtresses, en gros, de son fils allaient le voir en mode « bon, bah, en fait, allez, raconte-nous, ça va être quoi la suite et compagnie ?» et qui se faisait saquer quand il ne voulait pas dire le petit chou, quoi.
Oh non, non, non.
C'est horrible. J'ai été choquée quand elle m'a raconté ça, mais j'ai été choquée.
Les personnes sont moches. Non, je pense qu'on n'embête pas du tout, Nino. Mais la grosse tête, bah oui, ça, tu peux pas, tu vois, il y a des phases de petites réflexions, mais après, ça, c'est de l'éducation, tu vois, tu chopes, tu t'expliques, tu grondes, tu dis, non, on se comporte pas comme ça, on dit pas ça, on lui dit toujours, regarde si ton petit copain à côté disait ça, tu le prendrais comment? Il fait, ah, il serait nul, je dis, bah voilà. Donc, pour l'instant, ça se règle assez facilement, j'ai pas l'impression que ça soit un problème. Mais il nous dira peut-être plus tard quand il aura fait 20 ans d'analyse et qu'on n'aura pas vu le truc et on se sera dit « Merde, on est passé à côté !» Mais franchement, je crois que ça va.
Autant mieux. S'il y a une personne qui te croise et qui voit que tu as une belle carrière et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre?
Ben, je pense qu'il faut un peu de chance de toute façon. Donc, je dirais sûrement « Ouais, tu as raison, un peu ». Mais un peu de chance sans beaucoup de travail, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. Mais après, moi, je m'en fous un peu de ce que les gens disent. C'est plus... c'est avec le temps où tu dis c'est pas que ça m'atteint plus. C'est pas vrai. Il y a des moments où ça peut te blesser. Mais je m'en fous un peu. Je peux pas concevoir que des gens viennent te dire un truc désagréable. Je vois pas l'intérêt. Donc, ça me viendrait pas l'idée de le faire, même avec des gens que j'aime pas. Donc, pourquoi? Tu vois, ça me passe vraiment par-dessus la tête.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
J'aurais aimé, je regrette pas, mais j'aurais aimé quand même avoir commencé mon métier plus jeune. Donc, je conseille à tous les jeunes là, de s'ils ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire, parce que ça, c'est un problème aussi, mais qu'ils y aillent tout de suite, en fait, qu'ils se lancent. Et puis, l'avantage, c'est que justement, quand on est jeune, c'est pas très grave. On a encore le temps de changer. Mais de pas perdre de temps bêtement, on ne se rend pas compte de la valeur du temps. C'est, au fur et à mesure, on se dit, c'est marrant, il est de plus en plus court, celui-là. Donc, moi, ça serait plus foncer dans ce qui vous plaît vraiment tout de suite et n'attendez pas en disant non, mais j'ai le temps, je ferai l'année prochaine. Non, non, ça, je pense que c'est une bêtise. Voilà, c'est, je pense, que ce que j'aurais aimé qu'on me dise.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Vie au présent. Parce que j'avais tendance, quand j'étais à un endroit, de texter quelqu'un qui était ailleurs ou de penser à ce que j'allais faire le lendemain en me disant « mince, attends, j'ai oublié ça, ça ». Et quelqu'un m'a dit, mon mari m'a dit « tu veux pas vivre le moment présent, là, juste ça ». Et en fait, c'est bête, hein, mais c'est dur. Et ouais, mais je crois que c'est le meilleur truc et je me le répète tous les jours.
Comment tu t'es entraînée pour du coup basculer comme ça?
En se faisant la réflexion, en s'arrêtant, en se posant et en disant « attends, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là, tout de suite. Donc là, tout de suite, tu es en train de faire quoi? Je suis en train de te parler. Je ne pense pas une seconde à ce que je vais faire après. Je n'ai pas regardé l'heure. Tu vois, j'essaie vraiment d'être au moment. Mais il y a des moments, c'est dur. Hein. Voilà, il y a des fois aussi, tu n'as pas envie d'être à l'endroit où tu es. Voilà. J'ai essayé de faire ça. Et je n'y arrive pas toujours. Hein. Je trouve ça super difficile. Mais c'est un bon exercice.
C'est quoi tes prochains défis?
Prochain défi. Je te dis, apprendre l'italien. Là, je suis en plein dedans avec Babel. J'aimerais bien trouver après des Italiens pour parler en vrai parce que je ne suis pas sûre qu'avec que l'ordinateur, ça marche super bien. Mais bon, moi, je fais la grammaire. Prochain défi, qu'on arrive à faire Happy Blue Day là, pour l'association Ninou, pour les enfants autistes, parce que ça fait 2 ans qu'on ne la fait pas. Mais j'en ai plein des défis. Hein.
Les langues, c'est tu parles donc espagnol couramment, anglais couramment. Donc là, tu étais trilingue. L'idée, c'est qu'est-ce que ça crée chez toi, du coup, l'apprentissage des langues?
Je trouve ça génial d'arriver dans un pays, de parler la langue des habitants. Et je suis allée en Italie cet été. Puis je m'appelle Foy, hein, quand même. J'ai un nom italien, je trouve ça un peu nul de ne pas parler italien. Et puis, en arrivant cet été dans cet endroit dingue que je ne connaissais pas, je trouvais ça nul de ne pas parler une langue de mes origines et proche en plus quand même. Alors, tout le monde me dit « oui, c'est vrai, c'est facile, tu rajoutes des « et » des « a » à la fin. » Et puis, même en parlant espagnol, au contraire, tu confonds. Puis la grammaire, elle est quand même vachement compliquée. Donc, alors oui, ça va plus vite parce que j'en parle d'autres, mais c'est pas simple, hein. Franchement. Donc ça prend du temps. J'espère que. Mais il faut que je trouve un. Mais j'ai une copine italienne. Il faut juste qu'elle ait un peu de temps pour moi, mais j'aimerais bien passer une heure ou deux avec elle de temps en temps pour pratiquer.
Voilà. Et pourquoi le portugais? Tu disais qu'après, ça serait le portugais.
Parce que je l'ai appris quand j'ai fait mon MBA. J'ai suivi un an de cours pour apprendre le portugais et que j'ai lâché. Parce que je n'en connais pas, en fait, et que je trouve ça dommage. Donc là, j'ai vraiment toutes les bases, donc il faudrait juste que je m'y remette. Et pareil, comme ça, je pourrais aller au Portugal, surfer et parler dans la langue.
Et c'est pas... est-ce qu'à terme, tu aimerais pouvoir faire des films dans d'autres langues?
J'ai déjà fait des films en... Pardon, je me déplace, je mets un... Je branche mon ordi. J'ai fait un film américain qui s'appelle... Alors ça, c'est un problème. En revanche, j'oublie les noms. Puerto Ricans in Paris. Bon, le film est vraiment pas bien, mais c'était une chouette expérience et on a tourné à Prague avec Rosario Dawson, Luis Guzman et Alice Taglioni en française aussi. Et voilà. Donc mais ça change rien en fait en anglais. Si, ça, peut-être le fait d'être désinhibé plus. C'est pas notre langue, donc je pense qu'on. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ose plus parce que c'est pas ma langue.
D'accord. Et comment on le dit quand on est acteur et qu'un film, ça fait un flop?
Ben, ça fait jamais plaisir. mais malheureusement, c'est la loi du métier. Tu sais pas. Quand tu prends un rôle. Tu espères que ça sera le meilleur film possible. En tout cas, toi, tu essaies d'être le mieux possible pour que le réalisateur ait son film. Après, le problème du flop, c'est que ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que est-ce que c'est un manque d'envie des gens qui ne sont pas allés au cinéma? Est-ce que à ce moment-là, il a plu non-stop et juste le film, quand il sort, il fait 30 degrés? Il y a tellement de choses, tellement de paramètres que c'est compliqué de définir le flop. Si c'est flop en termes d'entrée, oui, t'es jamais content. Mais ça veut pas dire pour autant que c'était pas un bon film. Après, maintenant, avec les autres supports, la télé, tout ça, on a le temps de revoir les films plusieurs fois. Donc, je me dis, il trouvera peut-être son public plus tard.
Absolument. Est-ce que t'as un conseil de lecture?
Ah ouais. J'ai lu de Camille Laurence. Attends, j'ai un vrai problème avec les noms. Fille. Ça s'appelle Fille de Camille Laurence. Ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée, vraiment. J'ai adoré ce livre sur c'est la transmission entre une mère et sa fille. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, vraiment, à l'opposé, je vais dire Broadway de Fab Caro, et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, si les deux, c'est bien parce que ça fait un petit équilibre entre les deux, donc Broadway et Fille.
Super.
C'est les deux du moment.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Ben, merci à toi, Charlotte.
Ben, merci.
Et merci, je sais pas, merci à mes copines de me supporter, merci à mes parents de m'avoir épaulé, poussé, d'avoir été présent. Merci à mon frère et ma sœur d'être si soudés. Merci à tout le monde, en fait. Merci à mon mari aussi de supporter mon humeur du matin. Je ne suis pas du tout matinale. Merci à mon fils de supporter la tortionnaire que je suis quand on arrive au devoir le soir. Tu vois. Enfin, merci tout le temps.
Génial. Merci beaucoup, Lilou.
Ben, merci à toi. À bientôt. Salut.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec un homme exceptionnel. En attendant, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le lien sur pourquoipasmoi.co. Au revoir.